Nathalie Jardinière.
Bonjour à tous et bonjour à vous Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre expert du jardin, Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy.
Bonjour.
Ce matin, en ouvrant la case numéro 2 de votre calendrier de l'Avent, quel bonheur, vous tombez sur deux jardinières et un jardinier tout sourire qui ont envie de vous aider. Loin de la folie des fêtes qui approche, jardiner, c'est l'occasion de prendre du temps pour soi, tout en faisant du bien à son jardin.
Vous vous demandez sûrement que peut-on faire en décembre dans son jardin? Eh bien, Fabrice Rondet va vous le dire, il va partager tout son savoir avec vous. Ne soyez donc pas frileux, appelez-nous au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour poser toutes vos questions, vous qui avez la main verte. Et si vous avez des interrogations mais que vous n'osez pas en parler en direct à l'antenne, vous pouvez toujours nous écrire un SMS au 939 en tapant le mot jardin en début de message et en laissant un espace avant votre question. Il existe également le formulaire internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Dans les deux cas, donnez-nous un maximum de détails sur votre problème de jardin.
On est samedi et c'est parti pour les jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Fabrice Rondet, est-ce qu'il est trop tard maintenant pour tailler mon pommier? C'est Dominique de Courtelary qui nous pose cette question.
Non, alors il n'y a pas de problème, on peut commencer les tailles maintenant depuis quelques semaines, on a commencé ça et puis on peut repousser cet exercice jusqu'à à peu près fin mars, voire même déborder un petit peu sur avril si c'était nécessaire. Donc il n'y a aucun souci, on est en plein dans le bon laps de temps.
Et on a une question d'Emmanuel de Saint-Blaise, Sarah.
Est-ce qu'il faut déjà que je prépare mon potager maintenant pour les asperges que j'ai prévu de planter en février? Et si oui, que faire?
Alors ce qu'on peut faire maintenant peut-être, c'est préparer les sols avec un bêchage, un labourage du jardin. Ce qui va se passer, c'est que le gel, le dégel, on a la terre qui va bien s'émietter, qui va bien se défaire. Et puis après, on pourra préparer vraiment la surface comme on le souhaite pour mettre les futurs semis ou plantons, en l'occurrence les asperges en place.
Donc c'est pas trop tard. C'est pas trop, ni trop tôt.
C'est finalement. Ni trop tôt, ni trop tard. On peut s'y préparer gentiment ou faire tout au dernier moment. Ça dépend comme on a l'habitude de travailler.
À part le potager, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut préparer en attendant le printemps?
Peut-être les choses un peu rébarbatives avant que le terrain ne gèle. Maintenant, c'est en train de se mettre en place. C'est peut-être nettoyer les carrés, enlever les légumes qui auraient plus lieu d'être, les désherbages, des choses comme ça, histoire que le terrain soit propre, histoire qu'il n'y ait pas trop de travail avec des choses peut-être qui soient un peu pourries, un peu comme ça, ou c'est quoi, ça porte dédain un petit peu de toucher. Préparer, nettoyer son carré, ouais.
J'ai appris qu'on pouvait forcer les tulipes et les jacinthes à fleurir en seulement 3 semaines, après les avoir enfermées dans un local frais comme la cave durant 8 semaines. Alors, Fabrice Rondet, est-ce que ça fonctionne réellement?
Alors oui, c'est une technique utilisée quand même par pas mal de personnes pour avoir des plantes dans un appartement, sur une petite table, dans sa cuisine ou comme ça. Et puis effectivement, on peut mettre ça en place gentiment dans des conditions qui sont assez précises. Et après, on peut avoir une floraison à l'intérieur de sa maison, dans un petit pot, ça peut être très décoratif. Oui.
Est-ce que justement la floraison va durer autant que si elle avait eu lieu de manière naturelle au printemps, au soleil?
Alors, oui, elle peut durer quand même pas mal longtemps, mais ça va dépendre aussi des soins qu'on va y apporter au moment après, de la température, de la lumière qu'il y aura dans la pièce où elle se situe.
Justement, cette pièce, il faut qu'elle soit comment ?
L'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de courant d'air, qu'on ait un maximum quand même de lumière, et puis qu'on ait une température régulière, donc en évitant les hausses, les baisses, mais d'avoir quelque chose, une température constante.
Et c'est pas la première fois que j'entends les miracles entre guillemets que font les périodes d'isolement pour les plantes, comme par exemple pour les orchidées, si on les met dans un espace sombre ou si on les oublie, ça les régénère. Comment vous expliquez ça?
Il y a une théorie qui dit, mais je ne sais pas si on peut la vérifier, il y a une théorie qui dit que quand on stresse un petit peu les choses, après elles peuvent reprendre, elles peuvent se réveiller, puis remettre tout ce qu'il faut pour assurer la survie de leur espèce. Donc on peut voir ça sur certaines plantes, quand on a eu des coups de chaud, par exemple, des étuyas, on a vu dans des périodes très sèches en été, où c'est que tout d'un coup toutes les plantes se mettent à fruit, des choses comme ça. Donc on a un réflexe de vouloir s'en sortir, et puis on peut avoir des plantes qui se réveillent d'un coup comme ça. Mais il faut quand même pas oublier les arrosages, des choses comme ça, puis tout de suite arriver derrière avec un bon arrosage, avec de l'engrais pour faire sortir. Mais faut peut-être pas le faire non plus sur une période trop longue, trop régulière. Mmh. Ça peut les épuiser aussi. Ça, c'est un truc à faire un peu attention.
Justement, comment on peut voir si la plante s'épuise à faire ça? Est-ce qu'on peut vite la récupérer ou si on voit qu'elle faiblit, c'est déjà trop tard?
Alors, une plante qui s'épuise, en général, elle le traduit par un flétrissement des feuilles. Déjà des fleurs, celle-là des fleurs, elle va commencer par les flétrir, les faire tomber. Ensuite, les feuilles, c'est pareil, elle va les flétrir, les laisser tomber. Et puis, à partir du moment donné où c'est que tout ça se met en place, plus ça s'avance, plus c'est difficile à récupérer. Donc, il faut être vraiment observateur et puis après faire une taille adéquate et puis éventuellement rempoter, rapporter des engrais, rapporter de l'eau. Après, il y a pas mal de soins. Plus on va loin dans cet exercice, plus après la chance de s'en sortir est aussi risquée.
Merci Fabrice. On rappelle que vous êtes là jusqu'à 8h pour nous faire bénéficier de votre savoir sur le jardinage. Donc si vous avez des questions, même sur les plantes d'intérieur, n'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 939 en tapant d'abord le mot jardin, puis un espace avant votre question. Et il y a encore le formulaire internet qui est à votre disposition sur nos sites.
Les jardinières.
Vous pouvez profiter du calme de la nuit noire pour nous appeler au 0901 70 20 20. Les jardinières sont en compagnie de Fabrice Rondet pour répondre à toutes vos questions en rapport avec le jardin. Et vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 939 en tapant d'abord le mot jardin puis un espace avant votre question. Il existe aussi un formulaire sur nos sites. Vous le trouverez sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et Stéphane de Chevenet a une question pour vous, Fabrice. Comment s'occuper de salades qui sont sous un voile d'hivernage?
Alors la première chose, c'est peut-être s'assurer que l'armature qu'il a posée, probablement pour pas que les salades soient écrasées par un poids de neige, c'est de s'assurer que tout fonctionne bien. Après, c'est de contrôler aussi que les salades ne se gâtent pas, qu'on n'ait peut-être pas de petites choses comme des souris qui viennent se mettre en place, peut-être pour s'attaquer à tout ça. Et puis après, en les récoltant, regarder pour qu'il n'y ait pas de pourrissement, de choses comme ça qui puissent nuire à la culture.
Quand on a des cultures sous voile d'hivernage, est-ce qu'il faut aérer de temps en temps ?
Normalement, ces voiles d'hivernage, ils sont conçus pour laisser passer de l'air, pour pas qu'on ait justement comme une condensation, un gel qui se mette dessous, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment un plastique qui est imperméable. Donc, c'est plutôt un coupe-froid qui va les protéger justement des baisses de température pendant la nuit. Donc, on va stabiliser un petit peu tout ça.
Fabrice Rondet, on a aussi une question de Lorraine de Basse-Cour qui nous parle cerisier. Elle a planté cet automne un joli cerisier. Alors elle se demande si elle doit l'arroser cet hiver et si oui, comment s'y prendre?
Alors normalement quand on fait une plantation, on arrose, on peut arroser au moment de la plantation pour que la terre fine aille coller tout autour de la motte, autour des racines. Et puis ensuite, il n'y a plus besoin normalement d'arroser pendant tout l'hiver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette plante se reposer tranquillement. Et au printemps, quand la chaleur de l'air, de la terre, va redémarrer, va provoquer le démarrage de la plante, à ce moment-là, on peut être attentif à éventuellement apporter de la nourriture, de l'eau, et suivant le printemps qu'on a, s'il est trop sec, pour avoir un bon démarrage. Mais maintenant, depuis maintenant jusqu'à fin mars, il n'y a plus besoin d'arroser.
Et c'est la même chose pour toutes les autres plantes qui sont en extérieur, c'est-à-dire si on a par exemple des rosiers, si on a par exemple encore des plantes qui résistent à l'hiver, en extérieur, on ne les arrose pas.
Alors non, juste vraiment au moment de la plantation, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on a des boulettes de terre ou de pierre qui empêchent la terre fine de se mettre autour de la racine. Et puis avec le froid qu'on a maintenant, l'air, il peut circuler, il peut aller brûler la racine. Donc l'arrosage au moment de la plantation va faire que ça colmate tout ça, va empêcher l'air de passer. Et puis après, on laisse tranquille.
Donc si on vient de planter une plante en pot et qu'elle est, par exemple, dans une véranda, il faut l'arroser ou pas dans ce cas-là?
Un petit peu pour humidifier le terreau tout autour de la plante. Et puis ça, c'est autre chose pour les plantes d'intérieur. Là, il faut directement remettre en place le terrain. Ça va aussi le tasser, faire perdre son foisonnement. Et puis après, on aura le bon niveau de terre. Et puis après, on continue l'entretien comme par le passé.
Merci Fabrice. On a Sophie de Fleurier qui aimerait cultiver de l'aloe vera dans son appartement. Comment elle doit s'y prendre ?
Mais c'est une petite plante, ça, qui va nous demander pas beaucoup plus d'entretien qu'une autre plante verte d'intérieur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu toujours la même chose. La mettre dans un endroit où c'est qu'elle reçoit suffisamment de lumière, éviter les courants d'air, et puis avoir des soins réguliers au niveau de l'apport de l'eau pendant cette période, qui seront un peu moindres que pendant la bonne saison. Au démarrage de la saison prochaine, apporter un petit peu d'engrais, et puis les choses devraient se poser gentiment. Il faut juste trouver sa place, peut-être la changer un petit peu si on voit qu'elle se porte pas bien, peut-être la rapprocher d'un endroit plus lumineux comme ça. Ce qu'elle peut faire aussi, cette dame, c'est regarder soit dans un petit bouquin, soit sur Internet pour aller chercher tous les compléments d'information qu'elle n'aurait pas pour faire que cette plante se plaise.
Fabrice Rondet, on va parler oignons. En cette saison, est-ce qu'on peut planter des oignons ?
Alors, donc les oignons, on va les mettre un petit peu plus tard dans le jardin potager. Donc, après, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes font, je sais maintenant, des plantations dans des pots pour essayer d'aller un petit peu à contre-saison, avancer un peu les choses. Donc, il y a des essais qui peuvent être faits. Et puis, toujours essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Mais pour les bulbes, on va attendre encore un petit peu parce que maintenant, les terres sont en train de geler, tout ça. Dès que ça aura fini de geler, on peut commencer de préparer et de mettre en place tout ça.
Et j'ai déjà entendu qu'on pouvait planter des échalotes en pot, mais à l'intérieur.
Oui, alors il y a plein de personnes qui font plein de trucs comme ça, avec des patates, avec des échalotes, avec des carottes. Après, on a les herbes aromatiques, où c'est qu'on le connaît depuis bien longtemps. Mais effectivement, il y a une tendance qui s'est mise en place avec les petits jardins, sur les balcons, des choses comme ça, qui ont fait qu'il y a des essais qui se sont faits, puis que les gens ont trouvé ça rigolo. Puis c'est vrai que ça peut être décoratif aussi.
Nous avons Louiselle de Beuvais qui se demande comment différencier des larves de cétoine, apparemment qui sont utiles pour la plantation, pour la plante, et des hannetons qui, eux, ben, sont pas très utiles et dont elle aimerait s'en débarrasser de manière naturelle.
Alors, pour les différencier, moi, je vois que c'est le visuel le plus important. Moi, je vois qu'une chose qui soit des plus parlantes, c'est peut-être d'aller regarder soit dans un livre, soit sur Internet de nouveau pour aller voir à quoi ressemble la bête au niveau du visuel. Et après, en parallèle de ça, elle devrait trouver un descriptif par rapport à la longueur, par rapport aux couleurs, et puis qui pourrait enlever les doutes par rapport à la présence des larves qu'elle a chez elle.
En ce moment, Fabrice, les larves, tout ce qui est larves, tout ce qui est pucerons, etc., ça, c'est complètement mort.
Alors, pas forcément mort, parce qu'on n'est pas encore dans des froids très, très actifs. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une partie des plus faibles bruits qui sont un peu malmenés. Mais on a une partie quand même qui vont trouver refuge dans des endroits pour passer l'hiver. Donc, si l'hiver ne descend pas en température, on a des colonies qui seront très peu touchées. Et puis, on aura très vite toutes ces colonies qui vont se redévelopper au printemps. Ils veulent chercher à descendre pour tout ce qui va s'enterrer, à descendre en profondeur dans la terre. Et d'autres vont se cacher dans les crevasses des arbres, par exemple des écorces. Et après, vont redémarrer au printemps. Donc, les choses ne meurent pas complètement. Mmh. Autrement, on n'aurait jamais de problème dans nos jardins.
Même avec les températures extrêmement négatives.
Il faut vraiment qu'on descende très bas pour tuer des populations en grand nombre. Mais je pense qu'on ne peut pas y arriver. La nature est bien faite pour assurer sa survie quand même.
Si ces petites bêtes nous dérangent, de quelle manière naturelle on pourrait les éliminer ?
Alors là, pour chaque type d'insecte, on va plutôt intervenir soit au départ de la saison prochaine, dès le réchauffement, avec des pêches à phéromones pour les insectes en général maintenant, ou en travaillant avec des insectes aussi qui vont les parasiter. Donc ça, c'est les méthodes de lutte qu'on peut utiliser le plus facilement dans nos jardins maintenant, sur un plan en regard par rapport à la nature, à ce qui nous entoure. Oui.
Merci Fabrice, vous pouvez nous appeler toujours au 0901 70 20 20 pour discuter avec lui de votre problème de jardin. Sinon, il y a aussi le SMS au 939, vous tapez le mot jardin en début de message, un espace et votre question. Et il existe aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions aux jardinières sur nos sites.
7h, 8h, les jardinières.
Deuxième demi demi-heure, Fabrice Rondet est en notre compagnie pour répondre à toutes vos questions concernant le jardinage. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Les Jardinières.
Les Jardinières vous donnent la parole si vous avez des questions sur vos arbres fruitiers, vos potagers, votre pelouse, vos plantes d'intérieur ou même vos étangs. N'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez l'occasion de discuter directement avec Fabrice, paysagiste à Porrentruy. Et on lira également toutes vos questions par SMS. Pour nous envoyer un message, tapez d'abord le mot « jardin », un espace, puis votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Sur notre site, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet « Émission, questions aux jardinières ». Si vous choisissez la solution par écrit, n'hésitez pas à nous fournir le plus de détails possible pour une réponse vraiment complète. Et pour tout complément, vous pouvez toujours appeler le 0901 70 20 20.
On a Hervé de Miécourt, Fabrice Rondet, qui nous demande comment arroser au mieux des plantes en suspension.
Alors, les arrosages devraient se faire pour pas qu'on soit embêté d'une façon régulière, par petite quantité. Donc, y penser souvent. Et puis, comme ça, on ne devrait pas avoir le problème de l'eau qui déborde et puis qui, ou ce qu'on en met partout. Donc, si on fait ça un petit peu tout le temps, les séries suivantes de arrosages, ça dépend de la température qu'on aura dans la pièce. Ça va être une fois par semaine, selon les plantes aussi, une fois par semaine ou deux fois, tous les deux jours ou tous les trois jours. Ça dépend un petit peu du type de plante, de la température de la pièce. Et c'est ça qui va déterminer la fréquence, en fait. Et puis, les séries suivantes entre deux arrosages. Et puis, c'est tout.
Au niveau de la technique de l'arrosage, est-ce qu'on peut y aller différemment qu'avec un arroseur en fait classique ?
Alors, on a peut-être deux façons de penser là. C'est peut-être la première façon, c'est qu'on va arroser proprement dit, soit par le haut, soit directement dans l'assiette qui est en dessous du pot. Et puis après, on peut avoir aussi pour augmenter l'hygrométrie, peut-être dans la pièce autour de la plante en tout cas, en vaporisant de l'eau par rapport justement maintenant, on est rentré dans une période où c'est qu'on a allumé les chauffages, où c'est que l'air va se dessécher dans les appartements. Et puis pour certaines plantes, notamment comme les orchidées, ce serait bien d'augmenter un petit peu ce taux d'humidité pour pas que les plantes se dessèchent en souffrent.
Quels sont les moyens pour augmenter le taux d'humidité ?
Ben, tout simplement, on peut prendre un petit vaporisateur. Et puis après, on peut mettre éventuellement une coupole d'eau sur une cheminée, si on a une cheminée, un pôle Sueda, ou alors sur le radiateur, ce genre de choses. Ou alors, il y a des humidificateurs d'appartement qu'on peut utiliser aussi.
On parle de plantes d'intérieur, justement, on va peut-être un peu rester sur ce sujet. Est-ce qu'il y a justement des conseils que vous pouvez donner aux auditeurs à l'heure actuelle ? Est-ce que, par exemple, le froid extérieur engendre des conditions peut-être négatives sur les plantes d'intérieur, ou il faut s'en occuper de la même manière que tout au long de l'année ?
Ouais, les deux premières choses que je penserais, moi, c'est justement l'exposition par rapport à la lumière, parce que ben maintenant, on a des journées qui commencent à peu près 8 heures du matin au niveau de l'ensoleillement, avec 5 heures, on est à peu près au bout de la journée d'ensoleillement. Il suffit qu'on ait un temps couvert pour que la luminosité soit encore moindre. Donc peut-être rapprocher les plantes des points les plus lumineux dans la pièce. Après, par rapport à ça, on a l'air ambiant qu'il faut contrôler. Et puis après, quand on aère, peut-être aussi faire attention si on a l'habitude d'aérer longtemps, souvent, peut-être sortir les plantes de ces courants d'air froid.
On a une question. Lavande, Fabrice. Une lavande a eu sa première floraison cette année. Quand faut-il tailler l'arbre ? C'est justement une question de Germaine.
Alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est... On peut la tailler maintenant. Et puis on peut repousser cet exercice jusqu'à de nouveau fin mars-avril. Et puis ce qu'il faut faire, c'est couper juste en dessous des hampes florales. On va couper encore 2 cm des dernières feuilles. On va lui donner une petite forme arrondie, bien souvent. Et puis comme ça, au printemps prochain, elle va s'équilibrer et elle va redémarrer pour faire une plante plus forte.
Merci Fabrice. Et on a une autre question de Jacqueline de Porrentruy qui se demande s'il existe d'autres types de haies que le thuya pour qu'ils restent feuillus en hiver.
Alors ça va dépendre de la hauteur de la haie qu'on souhaite avoir, mais des plantes qui soient feuillues mais qui soient aussi peut-être persistantes, je pense qu'elle entendait, parce que on a le laurier, on a le buis, on a le troène. On a les ifs aussi, on a les faux cyprès. Oui, on a quand même une quantité de plantes assez importante à proposer. Donc, il faut regarder la longueur qu'elle veut mettre, parce que selon les plantes, ça peut être un petit peu plus cher. S'il y a peut-être une notion du prix qui est important. Il y a après l'esthétique aussi, il y a la largeur à disposition, il y a la hauteur qu'on veut couvrir. Donc, on va peut-être pas choisir un but qui va mettre beaucoup de temps pour pousser par rapport à ce qu'on attendrait si on veut qu'elle monte à 1m20, 1m50. Donc, il faut peut-être poser cette question-là, savoir la hauteur, la largeur, et puis à quelle justement quelle rapidité la plante, on va lui laisser le temps pour se mettre en place.
La haie est un peu tendance en ce moment. Ce qu'il y a des tendances en jardinage, une haie qui fonctionne bien, ce serait laquelle ?
Alors oui, il y a des modes dans les jardins, ça c'est sûr. Mais après, c'est un petit peu par rapport à l'univers de chaque personne, je dirais. Maintenant, on a toujours aussi une notion de place. Si on n'a pas beaucoup de place, les gens se rabattent volontiers avec une haie de thuya smaragd, qui est une plante assez colonnaire, qui est facile à maîtriser, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. En temps de travail ou en somme d'argent à consacrer, si on doit le faire par un professionnel. Mais après, ça dépend si on veut une haie monospécifique, donc tout la même plante, qui peut être peut-être un petit peu moins vivante au niveau des couleurs apportées tout au long de la saison, avec une haie qui serait... avec plusieurs types de plantes, des couleurs de feuilles, des couleurs de fleurs qui vont fleurir à toutes les époques de la saison. Donc c'est un petit peu l'univers de chaque personne qui va décider à ce niveau-là. Moi je crois qu'il n'y a pas vraiment une tendance qui se fait, c'est plutôt l'univers des personnes qui va se mettre en place.
Plutôt personnalisé, Fabrice, donc vous nous proposez.
Ouais,
merci.
Exact.
Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 pour poser toutes vos questions à Fabrice Rondet, notre paysagiste qui vient de Porrentruy et qui est là pour vous ce matin jusqu'à 8h. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939 en tapant le mot jardin en début de message, un espace et votre question. Et vous avez aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Justement, le formulaire internet, c'est ce qu'a utilisé Jacqueline Debuy pour nous parler de ses arbres fruitiers. Elle se demande s'il est obligatoire de les tailler chaque année ou si on peut sauter une année ou peut-être tailler plus une année et moins une autre. Comment vous conseillez Jacqueline, Fabrice ?
Alors moi, personnellement, je dirais qu'il faut les tailler chaque année. Parce qu'un arbre fruitier, quand il est jeune, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une taille de formation. Ensuite, on va faire une taille de formation et d'entretien tout en cherchant le fruit pour après finir plus qu'à une taille d'entretien et de fructification. Donc, si on la taille chaque année, on aura la possibilité d'enlever toutes les branches qui sont dans le centre de la couronne pour permettre au soleil, à l'air de pénétrer et puis de créer justement des conditions optimum pour arriver avec une maturité des fruits. Et puis, avec ça, on aura une plante aussi qu'on va pouvoir garder dans des bons volumes, des bonnes hauteurs, plutôt que d'avoir des plantes qui vont chercher trop loin, trop haut, puis qui peuvent être dangereuses après par la suite. Donc, on a un travail qui se trouve aussi diminué si on le fait chaque année, plutôt que d'intervenir, d'avoir des réactions. Si on le fait tous les 3-4 ans, on va faire des coupes plus importantes. Donc, on a une plante qui va repartir aussi plus lentement. Ce qui va se passer aussi, c'est que si on taille tous les 3-4 ans, avec ces coupes importantes, on va avoir une réaction plus violente au niveau de la végétation. Donc, on va compromettre un peu du fruit pour avoir une mise à plus en bois, plus en feuilles.
Eh bien, merci beaucoup. Fabrice Rondet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vous qui nous écoutez, vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions en direct au 0901 70 20 20 ou alors par SMS au 939. Dans quelques minutes, on va continuer notre aventure des jardinières, mais avant, on écoute Imagine Dragons.
7h, 8h, les jardinières.
Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20. C'est le numéro pour discuter avec Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy. Et pour que vous puissiez avoir toutes vos réponses à vos questions de jardinage, vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 939. Vous tapez le mot jardin en début de message et un espace avant votre question. C'est le cas de Jacques de La Chaux-de-Fonds qui se demande comment, quel engrais naturel on pourrait utiliser. Est-ce qu'il y existe des alternatives, Fabrice?
Alors on en a plusieurs, on a les engrais, le premier peut-être qu'on pense tous c'est le compost qu'on va faire au fond de son jardin ou qu'on peut aller chercher dans les communes. Après, on a des macérations qu'on peut faire, par exemple l'ortie, on peut le mettre comme engrais vert, on peut le mettre aussi comme excitant de végétation en pulvérisation. Après, on peut utiliser aussi, dans le commerce, on peut trouver aussi des fumiers, comme par exemple du fumier de poule. On a des cornes qu'on peut utiliser, on a du sang desséché, on a plein de choses comme ça qui existent, qu'on peut trouver pour mettre dans son potager ou à des choses bien précises. Ouais.
Est-ce que ces engrais naturels, c'est à nous, c'est préférable que c'est nous qui les fabriquions ou on peut les trouver dans le commerce ?
Non, on peut en trouver dans le commerce et puis on peut les faire nous-mêmes. Hein, ouais.
Qu'est-ce que vous conseillez comme
Le plus simple, c'est peut-être déjà le compost parce que ça nous permet dans un premier temps de récupérer pas mal de choses comme des feuilles dans sa propriété, comme les produits de désherbage, enfin on va dire les plantes qu'on va désherber et entretenir dans son jardin. Après, on va utiliser aussi tout ce qui ressort du ménage, comme les épluchures, toutes ces choses-là. Donc, très rapidement, on aura quelque chose après de qualité qu'on peut mettre dans son jardin. On va modifier aussi au niveau des sols après la rétention d'eau. Donc, on va alléger la terre, améliorer la terre elle-même. Mm-hmm. Donc, on a une terre un petit peu lourde. Donc, effectivement, il y a des avantages.
Et nous avons quelqu'un en ligne, Sarah.
Oui, c'est Marie-Jeanne de Delémont. Bonjour, Marie-Jeanne.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je voulais vous demander si une cyclamelle, on peut la mettre dehors l'hiver.
Alors, il y a des.
Tout près d'une maison.
Alors, la cyclamène d'intérieur, ce serait mieux de la garder peut-être à l'intérieur ou alors dans un jardin d'hiver. Mais de la mettre dehors comme ça, si c'est un cyclamène d'intérieur, elle pourrait en faire les frais.
Parce que je l'ai acheté au lundi et puis c'était dehors, mais dans un jardin, si vous voulez.
Alors si c'est une cyclamène
à l'abri.
Alors si c'est un cyclamène d'extérieur, vous pouvez le mettre dehors. Mais il faut s'assurer que vous ayez bien un cyclamène d'intérieur ou d'extérieur avant de passer à l'acte. Ouais, ce serait bien de vérifier ça sur l'étiquette. Vous allez trouver les renseignements ou alors vous retournez chez votre vendeur et puis vous lui demandez pour être sûr de la plante que vous avez.
Alors ça marche. Merci beaucoup.
De rien, madame.
Bonne journée.
Au revoir.
Belle journée, madame. Et nous avons certainement un autre appel, Sarah. Est-ce que vous êtes là ?
Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous en ligne ?
Oui, bonjour, c'est Carlos Mounier.
Bonjour.
Bonjour.
Écoutez, monsieur, j'ai un bonsaï ficus. Il y a toutes les feuilles qui sont tombées. Et j'étais au magasin, ils m'ont donné un produit pour les bonsaïs. Est-ce que ça va marcher ou bien ?
Alors, ce qu'il faudrait déjà savoir, c'est pourquoi ces feuilles sont tombées. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Puis après, savoir quel type de produit qu'ils vous ont donné. Donc, si les feuilles, elles sont devenues jaunes et elles sont tombées assez
rapidement. Non, les feuilles, donc, elles étaient tombées, pas après-midi. Il faut essayer avec ce produit pour refaire venir les feuilles. Mais je sais pas si je dois casser aussi des petites branches ou comme ça.
Déjà, ne pas casser, mais tailler, donc avec des coupes, avec,
oui.
Avec un outil bien aiguisé pour faire provoquer une bonne cicatrisation au niveau de la plante.
Oui.
Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, le produit qu'ils vous ont donné, moi, je pense qu'il faudrait faire. Vous n'aviez pas oublié d'arroser ?
Non.
Il est à la lumière ?
Il est à la lumière, mais avant, il était dans le salon. Je pense que c'était trop sec.
Trop sec. Alors ça, c'est probablement le cas. Donc, surveillez l'arrosage et puis remettez un arrosage régulier au niveau de cette plante pour que la terre, elle soit humide, mais pas trop mouillée.
Oui.
Arrosez peut-être un petit peu tous les deux ou trois jours. Et puis après, le produit qu'ils vous ont donné, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais moi, ce que je mettrais, c'est peut-être un petit peu d'engrais, mais en respectant bien les dosages pour provoquer une réaction de la plante. Mais maintenant, je ne sais pas si vous ont donné un fongique, si vous ont donné un antiparasitaire, ça dépend. Ils vous ont donné quoi ?
C'est engrais pour bonsaï.
Voilà, donc c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il faut provoquer un redémarrage de la plante. Donc vous lisez bien la notice, vous regardez pour mettre les dosages exacts. Trop, ça ne sert à rien. Trop peu, ça ne sert à rien non plus. Et puis, si vous dites de mettre tel dosage tous les temps de temps, faites exactement comme ça.
D'accord. Ben, je remercie beaucoup, messieurs.
Merci d'avoir appelé. Belle journée à
Merci,
vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Fabrice Rondet, vous êtes encore avec nous pendant quelques minutes. On va vous poser la question habituelle. Vous savez, toutes les fins d'émission, on parle un peu de ce qu'on fait dans le jardin. en cette période. Alors, on est début décembre, évidemment, les sols gèlent, la nature est au repos. Mais au jardin, est-ce qu'il y a encore des choses à faire, peut-être pour préparer à l'hiver et ne pas faire faux?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut profiter toujours de ramasser les feuilles, parce que le vent souffle, nous ramène les feuilles éventuellement du voisinage, donc toujours tenir propre autour de chez soi. Après, on a des plantes qu'on aura taillées, on a des plantes qu'on peut attacher aussi pour éviter une casse par rapport aux neiges lourdes. On a des plantes qui sont avec des branches un petit peu graciles, un petit peu fragiles. Après, ça, c'est les principales choses qu'on peut faire, désherber ces petites choses-là. Après, on peut commencer peut-être, pourquoi pas, d'anticiper la saison prochaine en préparant, en nettoyant ces outils de jardin. Éventuellement, maintenant qu'on a fini de tondre, probablement aussi d'amener sa tondeuse pour la faire réviser, histoire que... Que les gens, les réparateurs n'aient pas tout en même temps au printemps, puis qu'on ait sa tondeuse prête pour le début de l'année prochaine. Et puis voilà.
Et justement, j'avais une question à vous poser, mais elle m'est sortie de la tête. Ah oui, voilà, je l'ai retrouvée. Si on part en vacances pendant les vacances de Noël, est-ce qu'il y a besoin de prévoir quelqu'un pour arroser, ou c'est en cette période justement, ben voilà, c'est un petit peu au repos et puis il n'y a pas besoin?
Pour l'extérieur, non, on peut gentiment laisser l'arrosage de côté. On s'en occupera à partir d'avril-mai l'année prochaine.
J'ai une question concernant les outils que vous avez dit. On peut nettoyer en ce moment. Comment vous les nettoyez, vous? Avec quel type de produit?
Déjà, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement bien les frotter, les débarrasser de la terre. Après, on a des outils qui sont faits pour ne pas rouiller. Donc, en les nettoyant de cette façon-là, on peut après directement les mettre dans l'espace qu'on leur a réservé pour passer l'hiver. Après, il y a certains produits qui peuvent exister, qu'on peut mettre en place, mais il ne faut pas utiliser peut-être des produits aussi où c'est qu'on aura... pas nettoyer peut-être avec la benzine ou des choses comme ça, mais faire attention. On peut aussi, il y en a qui huilent aussi les bois des outils, des manches en bois, ces choses-là. Regardez, mais en général, juste bien frotter, débarrasser de la terre, les laisser sécher et les remiser, ça peut être suffisant.
Merci Fabrice Rondé d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de bénéficier de tous vos conseils. La semaine prochaine, les jardinières vont faire le marché à Porrentruy pour que vous puissiez tout savoir sur les sapins de Noël.
Cette émission en extérieur, ce sera l'occasion pour vous de nous poser toutes les questions que vous avez au sujet du sapin de Noël. Mais pas que, on répondra bien sûr à toutes vos interrogations sur le jardinage, Noël ou pas Noël. Les jardinières sont là pour vous le samedi de 7h à 8h. Et dès maintenant, vous pouvez nous écrire un SMS au 939 en tapant le mot au jardin et en laissant un espace avant votre question, ou par formulaire internet sur notre site. Bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir. 7h, 8h. Les jardinières. Les jardinières.